Bonsoir et bienvenue sur Radio Pirate. Alors comme tous les mardis, les Pirates vous ont préparé une émission sur la thématique de la santé mentale. Et l'émission de ce soir est consacrée aux conséquences du confinement sur les personnes qui ont un handicap psychiatrique, sur le fait de vivre avec des pathologies psychiatriques pendant le confinement. On sera avec vous dans quelques instants, on vous laisse le temps d'arriver et de vous installer en musique avec Red Roses Realm.
Notre émission de ce soir évoquera du contenu sensible. Il y sera brièvement mention de psychose, de pensées suicidaires et d'expériences dissociatives. Nous vous recommandons d'être dans de bonnes conditions pour nous écouter.
Prêts les enfants ?
Oui, capitaine !
J'ai pas entendu !
Oui, capitaine !
Oh !
Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Pirate pour la seconde émission consacrée à la santé mentale. Nous sommes en direct jusqu'à 21h45 pour parler du confinement sous l'angle du handicap psychiatrique. Alors moi c'est Barthes, je serai à l'animation ce soir, mais cette émission a été entièrement conçue et réalisée par Charles et Coca. Ce sont eux qui prendront la parole ce soir pour vous parler de leur handicap, de la prise en charge qu'ils impliquent, et ensemble nous évoquerons les conditions dans lesquelles ils ont vécu le premier confinement, ainsi que les conséquences que cela a pu avoir pour eux. Et puis nous aborderons aussi la question de ce second confinement. Est-ce qu'ils ont pu mettre des stratégies en place? Qu'est-ce que ce confinement signifie en fait pour les personnes handicapées en termes de santé mentale et d'accès aux soins? Alors bonsoir Charles, bonsoir Coca. Peut-être que vous voulez commencer par vous présenter.
Salut, moi c'est Coca. Je suis militant UCL depuis peu et je vis avec une schizophrénie malheureusement assez résistante au traitement. La schizophrénie, en fait, c'est une maladie assez mal comprise. On la confond souvent avec les troubles dissociatifs de l'identité, mais c'est pas ça. Pour faire simple, il y a des symptômes positifs à la schizophrénie, des hallucinations visuelles, olfactives, sensorielles, en somme, des crises délirantes, pour ma part également de la paranoïa. Puis il y a des symptômes négatifs, des états proches d'un état dépressif, un appauvrissement cognitif et social. Et des troubles de la pensée, de l'apathie, de la schizophasie aussi, qui est un trouble du langage. Donc je m'excuse d'avance si mes phrases sont un peu alambiquées ou pas très compréhensibles. Pour ce qui est du côté matériel de la chose, je perçois l'allocation adulte handicapé, et j'ai également la reconnaissance travailleur handicapé, même si je ne travaille pas pour le moment. Je suis aussi suivi dans un centre médico-psychologique, un CMP, dans ma ville, avec une psychiatre, et en termes de traitement, je prends divers neuroleptiques de fond et de crise, des anxiolytiques et des somnifères, et pas mal d'autres trucs. Cela fait que je suis c'est un traitement plutôt lourd pour une maladie qui résiste pas mal. Donc finalement, la schizophrénie, pour ma part, c'est pas mal de pertes avec le réel et avec le sens qu'on donne communément aux choses qu'on perçoit et qu'on ressent.
Bonsoir, du coup j'ai une connexion un peu chaotique ce soir, je préfère le préciser. Moi c'est Charles Samassis, j'ai 27 ans et je suis en fin de master de sciences politiques. Et me concernant, je souffre d'un stress post-traumatique assez sévère qui englobe des années de dépression, avec les idées suicidaires qui vont avec, des hallucinations, des attaques de panique, des cauchemars et des épisodes dissociatifs. Du coup, c'est surtout là-dessus que ma prise en charge est centrée. On m'a aussi diagnostiqué des troubles du spectre autistique il y a plusieurs années. Et je touche moi aussi la AAH depuis un peu plus de 3 ans et j'ai aussi la RQTH. Et c'est encore à déterminer, mais je suis aussi prise en charge pour des handicaps physiques, qui sont des douleurs neuropathiques liées à une fibromyalgie. Et en fait, ces douleurs, elles sont sans doute renforcées par mon trouble de stress post-traumatique. Et je pense que c'est important de rappeler qu'il y a une sorte d'interpénétration constante entre nos douleurs physiques et mentales. Parce qu'assez rapidement, on voit qu'en tant que malade, il y a une sorte de décloisonnement entre ces deux sujets. Et ça se reflète dans mes traitements. Je prends plusieurs antidépresseurs par jour, avec des anxiolytiques, mais aussi des médicaments de fond pour les douleurs et des opiacés. En fait, je ne peux pas choisir « Ah, tel jour, je prends mes médicaments pour mes troubles psy, et tel jour, je prends mes médicaments pour les douleurs. » Les troubles, ils sont conjoints, et les traitements aussi. Et forcément, ça revient à une prise en charge médicale et médicamenteuse qui, en conséquence, est super lourde. Voilà.
Bah, merci à tous les deux, du coup, pour cette présentation. Pour nos auditeurs et auditrices qui ne sont pas à l'aise avec le vocabulaire de la prise en charge psychiatrique et du handicap, qui va peut-être être aussi réutilisé au cours de l'émission, je vais reprendre quelques acronymes donc que vous avez utilisés, que vous avez déjà partiellement aussi définis. Du coup, il y a le CMP, qui est le centre médico-psychologique, qui dépend de l'hôpital, c'est un service sectorisé, donc le CMP de référence dépend de là où vous habitez. C'est un centre d'accès aux soins psy, donc psychologue, psychiatre, qui est gratuit et qui, en conséquence, connaît des listes d'attente assez longues, qui dépendent du secteur et de la situation perso, puisqu'en fonction des situations, c'est plus ou moins prioritaire. Il y a la MDPH, qui est la Maison départementale des personnes handicapées, donc qui est un service d'accueil, information, accompagnement, de conseil de personnes handicapées, et qui permet donc de faire les demandes, notamment de RQTH et d'AH, donc que je vais définir juste après. Les délais de traitement de la MDPH sont assez légendaires. Donc c'est des délais administratifs, des dossiers administratifs très lourds. Donc la RQTH, donc au cas à parler, c'est la reconnaissance qualité travailleur handicapé, donc qui permet normalement d'accéder à des dispositifs à l'insertion professionnelle, par exemple, mais aussi l'aménagement des horaires, du poste de travail. Normalement, c'est une forme de protection du travailleur handicapé. Et il y a l'AAH, qui est l'allocation adulte handicapé, dont le montant dépend beaucoup de facteurs, dont le taux de handicap de la personne, par exemple. Il faut savoir que le montant maximum de l'AAH est de à peu près 902,70 €. Mais ça, c'est pour une personne célibataire et sans revenu. Donc le moindre revenu fait descendre cette allocation. Et le fait d'être en couple avec un conjoint qui touche ne serait-ce que les RSA, peu importe, ou tout type de revenu, fait aussi baisser cette allocation, voire la fait disparaître. Donc c'est particulièrement difficile pour les femmes handicapées qui se retrouvent souvent dans des situations de dépendance à l'égard de leur conjoint. Mais en général, les personnes handicapées se retrouvent en situation de dépendance économique à l'égard de leur conjoint, du coup. Voilà pour le petit point acronyme. Je pense qu'on peut revenir au confinement.
Radio. Pirate.
Donc, pour beaucoup de personnes, le premier confinement a été un choc, un changement profond dans les habitudes de vie, une rupture aussi avec l'entourage. Comment est-ce que vous, Charles Coca, vous avez vécu en fait ce premier confinement? Quelles ont été les conséquences sur vos vies?
Pour ma part, pendant le premier confinement, je vivais encore chez ma famille, avec ma mère, ma sœur notamment. Là où je pensais que ça allait rien changer, en fait, parce que j'avais l'habitude de sortir vraiment très peu de ma chambre, notamment, il s'est avéré que j'ai dû partager l'espace familial avec toute la journée, toute la soirée, avec toute ma famille. Télétravail de mes parents oblige, le chômage de ma sœur aussi, puis c'était à la fois réconfortant, mais en même temps, comme je suis à risque, je faisais quasiment plus de cours, je faisais plus rien. pouvais plus sortir. Le peu que je faisais auparavant, je pouvais plus le faire. Et je disposais notamment plus de mes dépenses et de mes allocations comme je le voulais. Je me suis retrouvé en fait dans une situation de dépendance assez vénère. Ouais.
Et moi, je me suis pas rendu compte tout de suite de l'effet que ça allait avoir sur moi à terme. J'avais vraiment l'impression que compte tenu du fait que je sors très peu de chez moi et que je suis très solitaire, je pensais que le confinement allait vraiment pas changer grand-chose à l'architecture de mes journées. Et en soi, ça a été le cas. Mais en fait, j'ai aussi mésestimé que les rares fois où je sortais avant le confinement, je le vivais comme une victoire. Et du coup, je me suis surprise à sortir pendant le confinement uniquement pour me balader. Je courais partout en étant super heureuse de juste voir le soleil. Et là, je me suis dit, j'ai peut-être sous-estimé les effets de ce confinement sur mes besoins. Donc,
ouais, je pensais, bah ouais, moi je pensais qu'en étant entouré, ça allait bien se passer, mais en fait, je me suis trompé. Je pense que le confinement et les restrictions des libertés, ça a un effet assez insidieux sur la façon dont on vit au jour le jour les troubles mentaux et psy. Ça casse un peu le peu de manœuvre qu'on a sur nos vies, quoi, et les conséquences sont assez terribles, je trouve.
Ouais, mes séances avec mes soignants étaient toujours en présentiel. Et ils n'arrêtaient pas de me dire « Alors, comment vous vivez le confinement ?» Et enfin, moi, je m'entêtais à dire « Mais si, non, mais ça va très bien, ça ne change rien, foutez-moi la paix. » Et en fait, quand on déroulait, on se rendait compte que mes problèmes de sommeil et de dépression, l'air de rien, ils s'étaient amplifiés. Je trouve qu'il y a ce côté super pervers, quand on est en dimanche, avec le confinement, de croire a priori que le confinement ne va rien changer pour nous. Mais en fait, on reste toujours très perméable au climat politique qui est par ailleurs extrêmement anxiogène. Et à ce que collectivement ça implique. C'est facile de passer à côté de ça quand on est toujours dans notre coin, de se penser en dehors, entre guillemets, du stress ambiant. Mais en fait, ça nous affecte d'une manière ou d'une autre. On ne s'en rend juste pas forcément compte, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a aussi vu à quel point les personnes valides étaient catastrophées de ce confinement. C'était comme si le monde s'effondrait pour elles, de devoir rester chez soi, d'être limitées dans leurs déplacements. Et je comprends parfaitement que ça ait changé des modalités de vie pour plein de gens, et je ne minimise vraiment pas ça, mais c'était un peu, c'est à peu près comme ça que je vis tout le temps, tout le reste du temps, quoi, bienvenue.
Ouais, comme tu dis, Charles, le confinement a été sûrement brutal hein, pour pas mal de personnes. On voit d'ailleurs que ça a eu aussi des répercussions en termes de santé mentale sur la population générale, avec l'augmentation du stress, de l'anxiété, voire des déclenchements de troubles de type dépression. Et du coup, en ce qui concerne l'impact pour vous au quotidien, Charles, toi, tu as mentionné que ça avait pu augmenter tes troubles du sommeil et tes troubles dépressifs. Ouais. Qu'est-ce qu'il en a été pour toi, Coca ?
Moi, c'était vraiment compliqué. J'ai un accès à des soins et une équipe de soignants depuis quelques années maintenant. Et en fait, au-delà de la dépendance que j'ai précédemment décrite, j'avais un accès aux soins beaucoup plus limité. Et moins de rendez-vous médicaux, moins fréquents, un traitement que j'expérimentais encore. Donc en fait, tout ça, ça m'a conduit à vraiment développer des troubles hallucinatoires que j'avais vraiment très peu expérimentés par le passé. Notamment une sensation d'oppression physique et psychique très intense, avec beaucoup, beaucoup d'hallucinations visuelles notamment. Et donc pas mal d'idées suicidaires malheureusement, tant je perdais pied avec le réel. Donc autant vous dire que c'était pas top comme confinement dans ces conditions.
Les choses, elles ont été moins directes pour moi. Mais je pense que l'autisme a joué là-dessus dans le fait que je me suis beaucoup repliée sur moi pendant le confinement, sans même m'en rendre compte. Pour mon stress post-traumatique et ma dépression, vu que toutes les journées se ressemblaient, il y avait une sorte de grosse perte de sens. Je me suis retrouvée à me décaler encore plus que d'habitude, à dormir toute la journée, à vivre la nuit, ce qui est déjà une propension que j'ai à la base. Mais le confinement a énormément renforcé ça. Et évidemment, c'est dur à vivre socialement, mais aussi en termes de santé. Je me sentais moins en forme, je me sentais apathique. Et puis, je culpabilisais énormément vivre comme ça, de me sentir encore plus en décalage avec les autres. C'était aussi une période qui a accentué des épisodes où je dissociais, je déréalisais beaucoup, avec une perte de la réalité et du temps, une sorte d'absence. Et puisque plus grand-chose avait de sens, que le monde extérieur était, pour ainsi dire, inexistant dans ma tête, j'avais l'impression de me dissoudre un peu au fur et à mesure des jours.
Ouais. En fait, ouais, je te rejoins sur la perte de sens, notamment. Pour ma part, les journées et les nuits aussi étaient interminables. Elles se ressemblaient toutes. J'avais l'impression d'avoir en boucle les mêmes journées. Ajouté à ça l'ambiance politique de cette année, mais enfin pas que, mais cette année elle est gratinée, qui est horrible. Et c'était un enfer sans nom pour ma part. Et même si on était pas loin, enfin si on était plutôt loin de pas mal de valides, comme tu disais, qui pensaient que le monde s'effondrait autour d'eux. Bah pour nous, ça renforce juste pas mal de problèmes qui sont liés au manque d'accessibilité du monde qui nous entoure, quoi.
Ouais. Mais en plus, on y reviendra, mais j'avais un mémoire de recherche à boucler pendant cette période. Et comme j'étais dans une fac de droite, ils m'ont maintenu le mémoire et ils avaient mis mes aménagements handicapés comme des sortes de trucs informels. Donc j'ai dû travailler 11 heures par jour pour rendre dans les temps, quoi. Et je me souviens que je m'y mettais à 20 heures et je terminais 11h du matin pendant plusieurs semaines. Et en fait, c'est vraiment là que j'ai vu que autisme plus confinement plus des aménagements qui n'étaient pas adaptés dans mon université, ça peut créer des abominations qui ne sont pas possibles.
Ouais, déjà que les droits et les aménagements pensés pour les personnes avec handicap sont clairement insuffisants dans la grande majorité des cas, mais en plus, du coup, il faut se battre pour que les personnes les respectent, même dans des situations aussi compliquées que le confinement. Je trouve ça... voilà, bref. Comme d'hab, quoi. Du coup, on va bientôt passer à la suite, mais avant, on fait un petit break musical avec le très bien nommé Living Reality du musicien Readyman.
Dans des situations de confinement, les violences conjugales et intrafamiliales s'accentuent. Confiné avec un conjoint, un père violent, le risque peut être plus grand. Mais vous n'êtes pas seul. S'il est déconseillé de sortir, il n'est pas interdit de fuir. Si vous ou l'une de vos proches est victime de violences à son domicile, il existe des numéros, des associations que vous pouvez contacter. Le 3919 est le numéro gouvernemental contre les violences faites aux femmes. Vous pouvez également contacter Viol Femmes Information au 0800 05 95 95. Ces deux numéros vous accompagneront en ce qui concerne des démarches de plainte, d'éloignement ou simplement pour des conseils. Si vous ou votre proche résidez en Île-de-France, le centre Hubertine Auclair met à votre disposition sur Internet une carte des associations qui accompagnent sur orientationviolence.hubertine.fr. Où que vous soyez, Vous pouvez aussi contacter le planning familial le plus proche. Vous n'êtes pas seul.
Alors, avant la pause, vous avez tous les deux évoqué les effets du confinement sur votre santé psychique et comment ça a pu accentuer certains de vos troubles, en lien avec notamment l'absence de rythme dans les journées et le renforcement de l'isolement social. Donc, vous avez beaucoup évoqué la perte de sens ainsi que la perte de contact avec le réel. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé matériellement depuis ce premier confinement pour vous, puisqu'on se rend compte que c'est quand même pas tout à fait... le même confinement, c'est pas tout à fait la même dynamique, c'est pas le même choc peut-être aussi pour les gens. Est-ce que cette fois-ci, vous avez pu vous préparer, prévoir des aménagements en termes de santé mentale pour envisager de vivre un peu mieux ou un peu différemment ce second confinement ?
Ouais, maintenant en fait, ma situation matérielle, elle a un peu changé. Je vis seul dans mon appart, alors qu'avant je vivais avec ma famille donc. Même si j'ai dû faire un petit tour en urgence psy un peu avant le confinement, j'ai essayé de davantage communiquer avec les soignants, en fait, avec mes soignants, mais aussi avec mes amis. Parce que, en fait, c'est bête, sans doute, mais après tant d'années à être médicamenté, j'essaie d'avoir moins de remords à prendre mes médocs de crise, notamment. Bon, j'ai très très peur d'être dépendant. Parce qu'en fait, à situation exceptionnelle, la médicamentation, elle doit suivre, quoi. À défaut de pouvoir avoir des soignants aussi disponibles qu'en temps normal. Donc, c'est pas normal d'avoir été dans des états pareils pendant le premier confinement, pour ma part, je trouve, notamment parce que j'en ai gardé des hallucinations visuelles persistantes. Et paradoxalement, maintenant que je vis seul, il faut que je sois vigilant au problème inverse, quoi. Le problème inverse du premier confinement, c'est-à-dire pas tomber dans la solitude et l'isolement social.
Ouais, ouais. Mais en fait, moi, matériellement, ça n'a pas spécialement changé, mais c'est plus dans socialement ce qu'on a mis en place. Parce que je pense que Coca et moi, on a pas mal appris de ça. On a un Discord avec des copains, on a mis en place les fameux apéros qu'on a la chance de pouvoir faire, et je sais que tout le monde ne le peut pas. Parce que c'est pas évident de dire aux gens « ne restez pas seuls » quand ils ont genre pas d'entourage. Tout le monde n'est pas à égalité face à ça. Mais on a pu faire ça avec les webcams et tout. Et lorsqu'on l'a fait la première fois, je me suis rendu compte que, bah oui, ça faisait du bien de voir des visages amis, de se parler de vive voix, tout ça, quoi. On a aussi mis en place un ciné-club où on se regarde des films ensemble depuis l'annonce du reconfinement. Et c'est vrai qu'on n'avait pas du tout fait ça lors du premier. Personnellement, je sais que c'est pas dans mes réflexes premiers de faire ça. Mais en faisant un effort d'aller vers les gens, de faire des trucs avec eux même à distance, je vois quand même que ça me fait beaucoup de bien.
Ouais, en fait, je suis vraiment d'accord parce que... En plus, pendant le premier confinement, j'ai vraiment l'impression que personne n'était vraiment armé dans notre entourage.
Ouais.
Entre le télétravail de certains, de certaines, ceux qui bossaient de nuit faute de pouvoir avoir des horaires de bureau... les études aussi. En fait, on n'avait pas le temps, tant de temps que ça pour s'organiser, des moments entre nous, et on n'a pas, je pense, mesuré l'ampleur du bien que ça aurait pu nous faire, je pense.
Ouais. Alors attendez, il y a mes chats qui se battent en fond, donc ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits bizarres, c'est juste des chats qui se battent.
Tout va bien. Ça marche.
Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, en plus de devoir aller un peu plus vers les autres et de proposer de les appeler, de faire des activités, machin, c'est un peu pareil que Coca, je fais en sorte de prendre mes médicaments de crise, médicaments de crise beaucoup plus. Et en fait, je trouve que c'est assez dingue le pouvoir d'autocensure qu'on peut avoir vis-à-vis de nous-mêmes là-dessus. On n'ose pas prendre nos médicaments de crise alors qu'on est déjà turbo-médicamentés. On n'ose pas parler à nos amis de nos soucis, de nos états suicidaires, de nos crises, parce qu'évidemment, on ne veut pas faire porter ça aux autres. Et là, j'essaye de le faire un peu plus. Je vais un peu plus vers mes proches pour leur dire « Ok, ça ne va pas du tout, est-ce qu'on peut parler ?» Et justement, quand on est pris en charge, en thérapie, etc., on apprend vraiment beaucoup à compartimenter. Ça, j'en discute avec mes psys, ça, j'en discute avec mes potes. Et en fait, ça peut nous conduire à totalement arrêter de communiquer sur nos états à nos proches. Et moi, je pense que c'est une erreur. J'encourage toujours systématiquement à consulter quand ça ne va pas. Alors, on n'est pas des médecins, on n'est pas toujours formés pour soulager les gens, certes. Mais en tant qu'amis, on peut s'écouter, se soutenir, se déculpabiliser Et c'est une forme de sociabilité qui est d'autant plus importante en temps de confinement, et complémentaire même à des soins thérapeutiques. Et la limite, elle n'est pas toujours évidente, je trouve. J'ai l'impression de voir deux teams à chaque fois. Des gens qui ne sont pas spécialement pris en charge, pour une raison X ou Y, hein, je ne leur reproche pas, et qui vont charger beaucoup, beaucoup leur entourage, et d'autres qui sont dans le système de santé, entre guillemets, et qui vont juste ne rien dire à leurs proches. C'est une question de juste milieu, en fait, je pense. Et on a tous à apprendre à comment s'adapter à ces circonstances qui sont quand même super bizarres. Je pense que c'est une bonne période pour apprendre à communiquer sainement avec son entourage, à verbaliser nos états sans attendre de lui forcément des solutions miracles.
Du coup, je vais rebondir un peu ce que vous avez dit là sur les relations aux proches, parce que c'est vrai que communiquer avec ses proches, garder le lien avec les amis, les nouvelles modalités de socialisation en fait à distance, ça a été un des gros sujets du premier confinement. On a beaucoup entendu parler des aspéros Skype, un peu à toutes les sauces, quand c'était pas celles et ceux qui organisaient carrément les soirées chez eux malgré confinement, les voisins qui mettaient la musique à fond, tout ça. Mais on sait du coup que les personnes handicapées peuvent être plus susceptibles d'être isolées socialement. Elles sont parfois moins autonomes administrativement, économiquement ou physiquement, enfin selon les pathologies, les situations de chacune, hein, y a pas de règles. Vous aviez évoqué que le confinement qui faisait un peu l'impression d'un monde qui s'effondre pour beaucoup de personnes, soudain priées de rester chez elles alors que voilà, c'était pas les modalités de vie habituelles, vous avez semblé un peu risible au vu de vos situations à vous. Charles, comme tu as pu le dire, bienvenue dans nos vies d'andy en quelque sorte, mais finalement pour certaines personnes handicapées ça a été un peu double peine. Privé en fait des sorties, comme toi tu l'as dit aussi, hein, que sortir c'était un peu les highlights aussi à certains moments. Donc privé de sorties, de leurs liens avec les soignants, avec les aides parfois qui passent à domicile, en fait ça a pu générer des situations d'isolement encore plus renforcées, encore plus fortes, bien loin. Donc du coup de la folie des Skype apéro et des FaceTime quotidiens avec tous les membres de la famille qu'on a pu voir surgir un peu partout sur les réseaux sociaux et dans les récits des gens. Du coup, qu'est-ce que ça signifie, en fait, ces injonctions à ne pas rester seul dans ces situations quand on est une personne qui vit avec un handicap, quoi.
Pour ma part, en fait, je rejoins Charles sur le fait qu'on ne peut pas juste se contenter de raconter, de dire aux gens « restez pas seul », quoi. Parce que, à mon sens, on a la chance d'avoir Internet ainsi qu'un cercle d'amis qu'on peut contacter au besoin, quand ils peuvent, etc. Mais d'expérience personnelle, par exemple, moi j'ai fait pas mal d'hôpital de jour, fut un temps, et pour beaucoup d'andis, c'était vraiment le seul moment où ils pouvaient tromper une forme de solitude et d'isolement, quoi. Et les gens handicapés, c'est souvent, en fait, sont souvent seuls, et le confinement aggrave vraiment cet aspect, je trouve, de manière exponentielle. Et en plus, pour donner l'exemple de l'hôpital de jour, pour vous donner un exemple, l'hôpital de jour ferme pendant le confinement, dans mon CMP en tout cas. Donc beaucoup de gens se retrouvent très esseulés.
J'avais vu, je crois, la semaine dernière, quelqu'un sur le chat de Radio Pirate qui disait que c'était un peu le bad de voir les gens entourés de leurs potes faire les apéros Skype et tout ça, là. Et en fait, je crois qu'il y a deux trucs, surtout. D'une part, le confinement ranime des solitudes. Et Bart, moi, je sais que c'est quelque chose qui toi, te parle, la question des solitudes affectives particulièrement, mais aussi les solitudes amicales. On ne peut pas simplement se contenter de dire aux gens « Entourez-vous !» quand on n'a aucune forme de sociabilité, même sur Internet. Alors d'une part, je peux que conseiller les groupes de parole, en CMP ou en hosto de jour quand c'est possible, mais aussi les communautés en ligne. Je sais que Twitch, justement, aide beaucoup les gens sur cet aspect. C'est un peu ce qu'on fait ici à Radio Pirate, d'ailleurs. On essaie de recréer du lien social avec des voix amies, dans des périodes où l'isolement peut être vraiment décuplé, et où ça peut faire énormément de dégâts sur des personnes qui sont déjà fragilisées. Et je le vois en tant que streameuse aussi. Les rares fois où j'évoquais l'impact du confinement sur ma santé, C'était avec mon chat Twitch, parce que je streamais tous les jours lors du premier confinement, et je voyais que c'était quelque chose qui nous faisait collectivement du bien de faire ça.
Bah ouais, ouais. En plus, ce qui est cool avec les streams, c'est que c'est pas uniquement un rapport streamer-viewer, mais c'est surtout beaucoup, beaucoup d'interactions entre les gens dans le chat. Et c'est des interactions qui, la plupart du temps, peuvent s'exporter sur d'autres plateformes, comme Discord ou Wired, sur Zoom, que sais-je. En fait, c'est des endroits beaucoup plus communautaires où on peut y forger et entretenir des liens sociaux, et je pense que ça fait beaucoup, beaucoup de bien, quoi.
Et d'ailleurs, ça me fait penser au problème inverse. On a un ami dépressif avec Coca qui m'a dit qu'il s'était senti extrêmement seul, mais après le déconfinement. C'est-à-dire que le confinement était une grande période d'effusion. Tout le monde était connecté tout le temps, les réseaux sociaux saturés, il avait des nouvelles des gens, et inversement, voilà, les gens prenaient de ces nouvelles. Mais quand le déconfinement s'est passé, il s'est retrouvé à nouveau esselé. Et je pense que ça demande aussi de penser l'isolement des personnes malades dans sa globalité, et pas uniquement pendant le temps du confinement.
Mmh. Ben c'est vrai que la question du handicap et de la prise en compte des personnes handicapées dans la société est un sujet complètement global et pas particulièrement lié au confinement. Là, on le met en perspective du confinement parce que le contexte. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets à aborder. Et en fait, l'isolement, enfin le confinement et l'isolement généré a pu peut-être aussi accentuer certaines problématiques rencontrées. Coca, tu parlais tout à l'heure notamment de l'accès aux soins par rapport à ton CMP et des soins qui ont pu être interrompus, etc.
Ouais, en fait, en temps normal, il faut savoir que les CMP sont déjà débordés. J'imagine que c'est pareil pour d'autres soins, d'autres types de soins, de centres de soins psychiatriques. En fait, les CMP, pour aller plus en profondeur aussi, c'est des genres d'annexes d'hôpitaux, d'hôpitaux psy ou de services psy d'hôpitaux plus généralistes comme les CHU. Et en fait, ils sont confrontés, c'est des hôpitaux publics, quoi. C'est des annexes d'hôpitaux publics qui sont confrontés aux mêmes soucis que tous les hostos, en général, donc manque de moyens, manque de personnel, etc. Dans mon CMP, je sais que par exemple, il y a pas mal de médecins qui peuvent plus du tout accueillir de nouveaux patients. Donc on peut dire que j'ai de la chance. Moi, je suis admis et mon CMP n'est pas trop loin de chez moi, vis-à-vis de ma sectorisation. Cela dit, avec le confinement, il y avait pas mal d'arrêts maladie, donc beaucoup de soignants qui étaient surchargés, qui ne peuvent pas forcément prendre un rendez-vous. L'arrêt de l'hôpital de jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, des rendez-vous moins fréquents, plus courts aussi. Moi, je passais d'une séance de 45 minutes à peu près à des séances de 20 minutes, ouais. Donc, et moins fréquentes, donc c'est un coup dur dans le suivi thérapeutique. Et dans mon CMP, il n'y a pas non plus de procédure pour des séances distancielles. Et en fait, finalement, c'était vraiment au moment où j'avais le plus besoin de voir des soignants que malheureusement, ils étaient le moins disponibles. Il n'y avait quasi plus d'infirmiers psy dans mon service psychiatrique. Pour faire ne serait-ce que des injections de médicaments. Donc, j'aurais peut-être dû aller à l'hosto en urgence pendant le premier confinement, par exemple, vu l'état de nouveau dans lequel j'étais. Mais j'ai eu trop peur d'y aller en urgence psy à l'hôpital, bon, au vu du Covid, évidemment, mais également parce que je savais que l'état de mon CMP reflétait aussi l'état dans lequel était l'hôpital dont il dépendait, quoi. Et en plus, mon rendez-vous. Au début du reconfinement, il a déjà été repoussé, là. Donc, ça sent pas très, très bon pour la suite.
Ouais. Mais, finalement, en fait, la réflexion que je me suis faite, c'est que le confinement, globalement, vient renforcer un accès aux soins qui est déjà difficile à assumer et dont la distribution est déjà inégalitaire.
Bah ouais, en fait, on a moins accès à nos CMP et nos sautes de soins. Les rendez-vous, ils sont écourtés. En fait, on a surtout la sensation de dépendre, d'autant plus d'un système dont les coupes budgétaires successives donnent un accès vraiment très précaire, au précaire, justement. Puis, il y a aussi l'exemple horrifique, je trouve, de la Cour des comptes, qui disait il y a très peu de temps qu'il y avait, grosso modo, trop d'allocataires à l'allocation d'être handicapé. Donc, on vit vraiment dans la boule au ventre de ne plus percevoir une alloc qui conditionne notre situation matérielle, quoi, en tant qu'handicapé. Notamment parce qu'elle est toujours en dessous du seuil de pauvreté, notamment dans des périodes de pandémie et de confinement, et avec la potentialité de vivre avec encore plus de dépendance par rapport à sa famille, son conjoint, sa conjointe, peu importe, ses amis des fois. Je pense aussi, spécifiquement, ouais, comme tu l'avais dit, vous l'aviez dit, je crois, vous deux, précédemment, aux gens qui vivent en couple, notamment les meufs qui vivent en couple, et qui peuvent se voir, par exemple, minorer, voire supprimer leur alloc au regard du salaire du ou de la conjointe. Donc, ça crée encore plus de dépendance matérielle pendant une situation de confinement et de pandémie qui est déjà catastrophique, quoi.
Oui, exactement. Ça rend juste flagrant des choses préexistantes. Nos soignants sont très peu disponibles, les temps d'attente sont longs pour être pris en charge, et comme tu avais dit un peu plus tôt, on se dit qu'on n'est pas légitime à aller consulter alors qu'il y a le Covid, par exemple, mais une urgence psy est une urgence. Et c'est seulement parce que les politiques publiques et sociales de la santé sont médiocres qu'on n'est pas ou peu pris en charge, mais ça n'enlève rien au fait qu'on est parfaitement légitime à aller consulter. J'avais fait une story Instagram à l'époque sur le rapport dont tu parles, la COCA, de la Cour des comptes vis-à-vis de l'AAH.
Ouais.
Et c'est d'autant plus effrayant qu'en étant handicapé, c'est moins évident pour nous de nous mobiliser. Et je pense que ça pourrait être le sujet d'une autre émission à part entière, tellement il y a à en dire sur le militantisme, le handicap, car bien sûr c'est possible, et toi-même, COCA, tu milites actuellement, mais ça a un prix. Et on a donc forcément un rapport super particulier de dépendance matérielle, alors que ce soit vis-à-vis de nos conjoints, conjointes, mais aussi vis-à-vis de l'État, quand on est allocataire de l'AAH. Puisqu'on est en dit, bah, c'est pas évident de s'émanciper de ça. C'est littéralement une de nos seules ressources, du fait de nos contraintes médicales. Souvent, on va pas travailler, ou alors notre manière de travailler va s'en retrouver impactée. Alors quand on vit cette dépendance très forte à l'État et qu'on le lie à une pensée libertaire à côté, je trouve que ça fait des étincelles. Et clairement, il n'est pas question de dire « Ah, niquez l'État, ne demandez pas l'AAH », parce que c'est vraiment pas ça, ça pose juste plus globalement la question de toutes ces aides sociales qu'on nous sucre pour faire des économies, voire des bénéfices sur notre santé. Et nos AAH devraient non seulement être valorisés, mais en tant qu'handi, on devrait être décisionnaire dessus. Ça ne devrait pas être sujet à débat. En fait, il serait temps plutôt de se demander comment rendre les soins plus accessibles à toutes celles et ceux qui n'en bénéficient pas du tout, quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas évident.
Bah ouais, j'ai le même constat, notamment quand tu parles de lier ça à la pensée libertaire. Personnellement, je suis militant UCL, ou libertaire plus généralement, quoi. Et ça peut paraître un peu de l'ordre de la dissonance cognitive ou politique de vivre avec l'AAH et d'être libertaire ou anarch. Mais en fait, finalement, on est juste dans un rapport de dépendance, comme tu dis, qui est extrêmement inconfortable. Les décisions d'attribution d'AAH, par exemple, elles sont opaques au possible, elles sont longues. On sait à peine le nom du référent qui gère notre dossier, et c'est à peu près tout, quoi. Même si la MDPH, donc la maison départementale des personnes handicapées, est décentralisée dans son fonctionnement, ça reste le fric de l'État que l'État veut bien nous donner, quoi. Au gré de des réévaluations de l'AAH, ces réévaluations qui sont souvent d'ordre de la communication politique, en fait, on en est réduit à être un genre de faire-valoir au gré des modifications que les dirigeants accordent ou pas à l'allocation. Et pour ce qui est du militantisme dit, de souvenir, il y avait bien la mobilisation devant les MDPH, mais ça avait passé, pour ainsi dire, quasi inaperçu, quoi.
Mais je pense que de toute façon, il y a vraiment un très gros souci de prise en compte des luttes des personnes handicapées, alors au niveau général, hein, dans la société, mais aussi plus particulièrement dans nos milieux de gauche et nos milieux militants, hein, juste ouais. Même... une ouverture en fait aux personnes qui ont des handicaps à être accessibles en général. Il y a, j'allais dire, aucun effort qui est fait, mais oui, il y a aucun effort qui est fait. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que généralement les camarades handis sont présents et présents sur plein de fronts, sont militants, sont là en fait hein, dans les structures. Mais quand il s'agit de se mobiliser du coup en réponse pour les droits des personnes handicapées, on voit finalement très peu de monde. Relayer et être présent, surtout aussi physiquement. Tu parlais des rassemblements devant les MDPH coca, des choses comme ça, quoi. Ouais. C'est pas des mobilisations qui fédèrent, quoi. Et du coup, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je crois qu'on se rapproche doucement de la fin du temps qui nous est imparti. Oui. On est vraiment nickel, hein, quasiment là. Je vous propose un petit mot de la fin. Est-ce qu'il y a un conseil, une remarque pour nos auditeurs, auditrices, Andy, ou même Valide d'ailleurs, que vous souhaitez ajouter? Voilà, je vous laisse finir.
Il y a plein de petits conseils qu'on peut donner, je pense. Pour ma part, dans l'état actuel des choses, c'est vrai qu'on n'est pas aidé de ouf. Faut dire des choses comme elles sont. Par contre, il y a plein de petites solutions de réflexe qui peuvent faire la différence, je pense. Faut pas hésiter à chercher de l'aide médicale, comme avait beaucoup appuyé Charles précédemment, en allant à votre CMP, chez votre psy, ou même commencer des démarches pour avoir un accès thérapeutique de manière générale. Pour ce qui est du reste, n'hésitez pas à parler à vos amis si vous vous sentez seul. N'hésitez pas à aller voir du côté des petites communautés en ligne si vous n'avez pas forcément beaucoup d'entourage ou si vous n'en avez pas. Personnellement, c'est dans l'une de ces communautés que j'ai pu avoir à rétablir du lien social, quoi. Oui. Et je ne me vois pas du tout faire sans maintenant. C'est primordial. Puis, si vous êtes valide, n'hésitez pas à prendre des nouvelles de vos amis, potes, camarades, que sais-je, qui sont handy. Ça mange pas de pain. Ça leur ferait peut-être du bien dans les moments particuliers qu'on vit, quoi. Et surtout, s'il vous plaît, d'un point de vue collectif et politique, s'il vous plaît, intéressez-vous aux luttes politiques liées au handicap, à la santé, au validisme, si vous le pouvez, bien sûr.
Je voulais juste rebondir sur un message du chat de quelqu'un qui disait « Je stresse parce que ça fait bien 4 mois que j'ai plus de ressources à part les APL et que j'attends la AH qui met énormément de temps à être décidée. » Les délais de la AH sont extrêmement longs. Ça peut, ouais, parfois, selon où vous vivez, ça peut prendre un an à être statué. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est aussi de contacter la MDPH dont vous dépendez en leur expliquant la situation. Moi, ce que j'avais fait lors de ma première demande d'AAH, pas pour mon renouvellement, c'est que j'étais dans une situation de précarité matérielle énorme et que je suis tombée sur quelqu'un qui avait été vraiment très chouette et qui avait fait passer mon dossier en urgence. Et c'est un peu ça qui est terrible, c'est qu'aussi on est souvent très dépendante de la personne sur qui on tombe à la MDPH. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est vraiment relancer la MDPH, ne pas hésiter aussi à contacter et à solliciter des assistantes sociales dans vos CMP, qui sont généralement super bien armées pour relancer les MDPH et faire les démarches avec vous. Et un dernier mot sur le renouvellement de la AH. Ce qui s'était passé lors du premier confinement, c'est que moi, j'attendais le renouvellement de la décision. Et je stressais un peu parce que la fin de ma première AAH tombait pile au moment du confinement, quoi. Et je sais qu'il y avait eu une mesure vis-à-vis des MDPH où, en gros, l'AAH avait été maintenue pendant encore 6 mois en attendant les décisions de renouvellement. Donc ça vaut le coup aussi de se renseigner auprès de vos MDPH là-dessus. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Du coup, je vais te répondre, Bart, sur la remarque ou des conseils que je pourrais donner. Je trouve que ce qui est vraiment important à rappeler, c'est qu'on est en droit de chercher de l'aide, même pendant le confinement, même si on se dit que ça vaut pas le coup et qu'il faut pas laisser pourrir ces choses-là. Je sais qu'on n'est pas aidé, c'est vraiment terrible, mais je sais que, par exemple, des exemples bêtes, par exemple, le CMP où je suis prise en charge est extrêmement loin de chez moi. Et avec mes soucis de santé physique et le peu de transport du premier confinement, ça a vraiment beaucoup, beaucoup compliqué les choses. J'ai des profs de ma fac qui profitent du distanciel pour ne pas du tout prendre en compte mes aménagements de handicap, parce que visiblement, je cesse d'être handicapée quand je travaille de chez moi. Et j'imagine à quel point je ne dois pas être la seule dans ce cas. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le confinement, ça rend juste visible des violences et des discriminations qui sont déjà présentes. Ça vient seulement les solidifier. Et on ne doit pas lâcher ça. En tant qu'Andy, je trouve que c'est extrêmement nécessaire de politiser nos conditions d'existence et les personnes valides doivent soutenir ces mobilisations et les luttes du personnel médical aussi. Parce que le confinement, ça vient recouper toutes ces thématiques et de manière très puissante. Santé publique, prise en charge de nos malades, conditions professionnelles déplorables des soignants, précarité matérielle et isolement des handis et des vieux. Alors c'est un bon moment pour nous rappeler qu'on doit lutter pour un accès aux soins qui soit équitable, qui soit juste, qui soit gratuit pour tous et toutes, avant, pendant et après le confinement. Donc voilà, c'est ce que j'aurais à dire.
C'est sur ça qu'on va finir, hein. Je pense que c'est parfait. du coup, comme vous l'avez dit, Charles et Coca, c'est ultra important de rappeler à celles et ceux qui nous écoutent qu'elle et il, que vous avez le droit donc de solliciter une aide médicale, hein, que le confinement n'empêche pas d'aller consulter les médecins ou de contacter un CMP. Voilà, faut voilà, tendre la main, aller chercher des réponses, vous avez le droit d'être suivi, d'être soigné, d'être aidé. Et du coup, pour les personnes valides, j'espère que vous avez saisi l'importance des luttes des personnes handicapées pour les droits des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne la valorisation de l'AAH, hein, dont on a pas mal parlé. Tu l'as mentionné, Charles, il y aura en effet une émission entière ou même sûrement plusieurs en fait, à faire sur le sujet. Mais l'autonomie et l'indépendance des personnes handicapées est toujours remise en cause par les politiques qui fragilisent toujours plus l'accès aux soins, l'accès aux droits, l'accès à l'AAH, en la conditionnant, par exemple, on en a déjà parlé plusieurs fois, aux revenus du conjoint, ce qui est extrêmement injuste. Et donc, tout ça, c'est l'accès en fait, à l'autonomie économique, à l'autonomie aussi physique des personnes qui ne peuvent pas nécessairement travailler. Du coup, on l'a mentionné, les luttes pour les droits des personnes handicapées sont peu mises en avant et peu soutenues en général. Il faut écouter, s'informer, se mobiliser pour soutenir nos camarades handis. Alors, il y avait une question sur le chat qui nous demandait quels syndicats et quelles organisations de personnes handis suivre et soutenir, si ça n'a pas déjà été dit. Du coup, moi, ma petite recommandation, parce que voilà, c'était Elisa Rojas sur Twitter, qui est une avocate et aussi une activiste, une militante des droits pour les personnes handicapées. Et du coup, je voulais vous demander, Charles et Coca, si vous avez d'autres pistes à donner à la personne qui posait la question et à nos auditeurs en général.
Alors moi, du coup, je ne connais pas autre chose que ce que la personne a déjà cité. Par contre, en termes de compte, je sais que je suis comme des fous sur Instagram qui parle beaucoup de la folie, quoi, de handicap psy. Il me semble qu'il y a un compte aussi que je suis qui s'appelle Papa l'érotiste et qui est vachement chouette là-dessus. Sur les questions des troubles autistiques, pour les femmes, parce que c'est encore là, ça pourrait aussi faire l'objet d'une émission à part entière. Je vous conseille beaucoup, si vous arrivez à lire de l'anglais, Rudy Simon, qui a énormément travaillé, qui a beaucoup produit de ressources sur les manifestations du trouble autistique auprès des femmes autistes, qui en est elle-même une, et elle a écrit pas mal de livres là-dessus.
D'accord.
Ok, moi de mon côté, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter. D'un point de vue très pratico-pratique, ça a été déjà dit, et peut-être que les gens n'ont pas tous entendu et tout, mais n'hésitez surtout pas à aller voir des assistantes sociales liées à votre municipalité, liées à votre CMP, liées à des hôpitaux publics, des hôpitaux psychiatriques publics. C'est les travailleurs sociaux qui vont vous aider le plus, généralement. Dans l'immédiateté. Et je sais que à titre personnel, ça m'a beaucoup beaucoup aidé, à titre en termes d'accélération d'un dossier, etc. Je sais que c'est pas que mon cas à moi, j'ai beaucoup beaucoup de cas autour de moi où ça a été le cas, donc je ne pourrais que vous conseiller de faire ça.
D'accord.
J'aimerais juste ajouter un truc, c'est aussi, donc c'est très important qu'il y ait des syndicats et des organes de personnes handies, mais encore une fois, c'est très important que nous, on investisse ces syndicats et ces organisations. Ouais. Et alors, dans le cas de Coca et moi, nous, on est proches de l'UCL parce qu'on est des vieux anards, quoi. Mais je sais que c'est vraiment vital que ce soit mis à l'agenda de ces orgas, de ces syndicats, qu'il y ait des personnes handies qui militent là-bas, voir ce qu'on peut mettre en place et construire avec eux. Par exemple, si même on ne peut pas se déplacer, quand même envoyer un mail à l'organisation ou au syndicat pour dire voilà, est-ce qu'on peut ne pas faire un truc en distanciel, comment est-ce que je peux aider, histoire que ces problématiques-là finissent par faire partie de l'ADN même en fait du syndicat ou de l'orga, quand bien même ça n'est pas de rapport direct avec le handicap. Mais c'est important aussi qu'on porte ça là-bas.
Oui, que les revendications, les droits des personnes handicapées soient complètement intégrés dans les projets politiques de toutes les structures, que ce soit des syndicats, des organisations politiques, etc. quoi.
C'est ça, ouais.
J'ai rien d'autre à ajouter personnellement.
D'accord. Charles, je te demanderai peut-être les ressources que tu as citées, comme ça on pourra les mettre en lien sur Twitter, je pense, puisqu'on ne les a pas là sous la main pour les mettre dans le chat. Donc on essaiera de vous faire un thread sur Twitter avec un peu les éléments qui ont été mentionnés, quelques petits rappels, tout ça. Écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission. C'était un plaisir d'être avec vous. Avant de laisser la parole à Charles pour la conclusion, je me permets de vous rappeler que les émissions de santé mentale reviennent tous les mardis et que Radio Pirate diffuse tous les soirs à 21h et que nos émissions peuvent être retrouvées du coup en podcast si vous ne les suivez pas le soir même ou si vous voulez réécouter cette émission. Elles sont ensuite en podcast sur quasiment toutes les plateformes. Je te laisse le mot de la fin, Charles.
Merci. Alors, cette émission, elle a été rendue possible grâce à Bart à l'animation. Donc, merci Bart. Florian à la technique. Merci Florian. Et aux interventions de mon ami et camarade Coca Colcose. Merci Monsieur Coca. Mille merci à la modération, à la piraterie, à vous autres, présents et présentes, pour nous écouter. Nous nous retrouvons demain pour une émission sur la précarité étudiante avec Adrien et Victoria. C'était Charles Selmassis pour Radio Pirate. À très vite et prenez soin de vous.
Bonsoir. Salut. Salut.